FranceBleu.fr.
Vive Paris-Berlin.
France Inter.
La voix est libre.
Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, son répondeur, c'est parti.
Peut-être, après tout, les dieudonistes sont-ils pas tous des fachos de base. Mais ils sont au minimum cons. Et c'est pas forcément moins dangereux.
Oui, bonjour, je voulais réagir au reportage sur Dieudonné du lundi 20 janvier. Je partage vraiment l'analogie en fait qui a été faite par Daniel Mermet concernant Yves Montand et l'affect que peut représenter un artiste. En l'occurrence, j'ai 31 ans et c'est vrai que j'ai suivi Dieudonné depuis tout petit, depuis que j'ai l'âge de 10-15 ans. Et c'est vrai que c'est une vraie douleur désormais de voir à quel point il a dévié après le combat qu'il a pu avoir à Dreux, après ses différentes prises de position, et le voir sombrer comme il a pu sombrer, c'est très triste. Voilà, voilà pour ma réaction. Bonne journée.
Ah Daniel, Francis de Nancy, eh bien ça continue, voilà. On a trouvé Nordine pour témoigner, on n'a pas trouvé Jean-François ou Charles ou Henri. Et puis, lapsus révélateur dans ta bouche, c'est le problème. Enfin, le sujet, c'est la quantité, la fidélité des gens. Bah écoute, ça fait combien de temps que là-bas, si j'y suis, existe. Tu vois, je vais finir par croire ce que me dit mon fils, ingénieur de la plus grande école de France depuis des années, mais arrête d'écouter Mermet. Parce que si Mermet, c'était vraiment dérangeant, il y a longtemps qu'on lui aurait fait fermer sa gueule. Est-ce que vraiment tu fais partie du système, Daniel? Ah, je suis en train de prendre un coup de poignard dans le dos, là. Je vais me reprendre, je vais me ressaisir. Salut.
Bonjour, Daniel, bonjour à tous. Le malaise Dieudonné, disais-tu. Quelle escroquerie intellectuelle, Daniel. Tu commences à faire dans ton froc, mais vraiment, cette fois-ci, sans prendre de gants. J'écoute ton émission depuis 15 ans. Cette émission de lundi ressemble à celle de Frédéric Taddeï, carrément, mais vraiment. Et je reprends la phrase de M. Jean Bricman, qui a fait référence à Voltaire en disant « Pour savoir qui a le pouvoir, cherchez du côté de ceux que vous ne pouvez critiquer. »
Salut Daniel, bonjour toute l'équipe. Je viens d'écouter l'émission bien, content quoi, bien. Mais alors je voulais dire une chose, ça a toujours été, t'as le chrétien riche, le chrétien pauvre, t'as le musulman riche, le musulman pauvre, t'as le juif riche, le juif pauvre, l'hindouiste riche, l'hindouiste pauvre, les évangélistes riches, les évangélistes pauvres. Et pendant ce temps-là, c'est ceux qui ont tout le peps, le pognon et la politique, les outils politiques dans les mains. Alors ils font la pluie, le beau temps sur le monde. Et puis, pour ce qui est Dieudonné, il s'est lancé dans un truc, je vois pas comment il va s'en sortir. Ça, par contre, alors là. Sinon, bien, hein, j'étais content de cette émission, vraiment bien. Ça aide à réfléchir, hein. C'est vrai, et t'as raison, c'est pas facile. Vraiment pas facile. Allez, bonne journée à tous et merci de cette émission, Daniel, et à vous tous, votre travail exceptionnel. Merci.
Bonjour, écoutez, j'écoute votre émission qui est excellente parce qu'on y voit beaucoup plus clair, je trouve, sur la démarche de Dieudonné. Et en fait, mon interprétation par rapport à ça, c'est qu'il y a un grand amalgame. Et pour moi, à la place d'antisionisme, on pourrait peut-être tout simplement parler d'islamisme. Et je pense que justement, il y en a qui font fausse route. En France, quand on entend parler des royalistes, effectivement, ou du gouvernement qui parle beaucoup d'antisémitisme, je pense que voilà, les Français qui sont auprès, au lieu des spectacles de Dieudonné, font fausse route dans leur idéologie antisémite, telle que les royalistes. Mais effectivement, d'après ce que j'écoute, Dieudonné s'adresse en tant qu'islamiste, puisqu'il parle au nom des musulmans qui veulent défendre leur terre de Palestine. Voilà. Mais écoutez, j'y vois un peu plus clair, et éclairez-moi si je fais fausse route, mais pour moi, c'est ce qui s'en dégage de cette émission. Merci, au revoir.
Bonjour, c'est Marilène. Je voulais m'adresser à M. Daniel Mermet ce 20 janvier. Et je trouve que vous faites quand même un peu trop de publicité à M. Dieudonné. J'ai éteint ma radio aujourd'hui. Au revoir.
Bonjour, c'est Mathilde de Marseille. J'attendais avec curiosité le sujet sur le public de Dieudonné. Personnellement, il ne me fait pas rire du tout et j'avoue que son succès m'inquiète autant que son interdiction en fait. Et puis cette façon comme ça de pousser les extrêmes dans tous les sens. Enfin bref, en gros, je voulais en savoir plus sur ceux qui le suivent et j'avoue que j'ai pas trouvé ça fair play d'interroger les gens sur un lieu de manifestation parce qu'en fait, ils sont tous excités, ils ont tous l'air débiles alors que je pense qu'ils le sont pas. Et que de les mettre en regard avec des intellectuels qui disent des choses intéressantes dans des contextes posés, ça force encore plus le contraste. Et moi, j'aurais aimé entendre des gens qui suivent Dieudonné dans un contexte posé pour comprendre mieux et pas juste entendre des gens qui hurlent des banalités parce qu'ils sont en groupe et que ça les rend stupides. Donc voilà, je trouvais pas ça très, très constructif et très instructif du coup, mais je vous remercie quand même. Et puis bravo pour vos émissions que je suis avec grand plaisir. Au revoir.
Salut auditeur de là-bas si j'y suis. Merci pour l'émission sur le public de Dieudo. Interroger, comprendre et enrichir le débat vaut bien mieux que de le juger et de l'interdire. D'ailleurs, y en a-t-il un de public de Dieudo? Avons-nous vraiment besoin d'une définition communautaire? Moi je m'interroge et j'en suis d'autant moins sûr que je ne me reconnais pas du tout dans les interviews recueillies auprès de ce soi-disant public. Donc bravo Daniel d'ouvrir à la réflexion. Car évidemment, ça crée un malaise, ces présupposés antisémites, et il faut y répondre. Et ce qui vaut mieux, beaucoup mieux que de répéter bêtement ce qui se dit, pour aboyer avec la meute, que l'on soit d'un côté ou de l'autre de la petite barricade de Dieudonné. Moi, pour moi, le racisme ne prend pas que la forme stéréotypée des rejets de culture ou origine. Et d'ailleurs, à quand une éducation à la différence de penser, d'être et d'agir à l'école ? Dieudonné me fait marrer, j'avoue, c'est vraiment vrai, je me marre vraiment bien, mais je ne pratique pas la quenelle car ce geste ne me plaît pas, ni les amalgames à 1 euro. Et le spectateur qui se dit anti-système avec 4000 euros par mois et qui tenait à préciser qu'il avait un boulot, lui, et qu'il l'avait mérité du fait de ses études, eh bien ce spectateur-là ne m'invite pas à rejoindre le public de Dieudonné s'il y en a un. Moi j'ai 2 Master 2, j'ai du mal financièrement et je ne suis pas du tout le seul. Je terminerai en disant que je me sens indigné et révolté très souvent en observant notre monde actuel. Et cette rébellion ne m'enlève ni mes facultés d'écoute et de réflexion, ni ne m'empêche de rester curieux, attentif et digne. Voilà. C'était Thierry, près de Bordeaux. Merci à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Vous faites un super boulot. Bravo, ciao.
Pablo, Pablito, Pablo, Pablito. Oh les cœurs, voilà un nouvel auditeur. Pablo est né dans la nuit, les amis, à 2h10. 3 kilos, 870. Longue vie à lui. Et oui, là-bas, si j'y suis, fait des petits.
Bravo, Gélard. Bravo, Lucie. Et ouais, c'est un petit là-bas qui est né à 2h. Cette nuit, 2h, 3 kilos, 870. C'est vraiment un exploit. On est très fiers de notre coup. Bravo à Pablo. Bravo à la maman. Bravo au papa. Et oui, en 25 ans, là-bas, si j'y suis, il y a des familles qui sont nées dans l'histoire de cette émission, des couples qui se sont formés, bien sûr, et puis des enfants qui sont nés. On ne sait plus très bien combien, mais il y en a quand même pas mal. Et donc là, c'est Pablo. Bienvenue à Pablo. On espère que cette planète te déplaira pas trop. Tu ne seras pas trop déçu. On a fait ce qu'on a pu, mais évidemment, on compte sur toi pour arranger les choses. C'est très très bien parti. Avec une maman et un papa pareil. Champagne donc pour tous et toutes. Et alors, Dieudonné, vous avez compris, on continue aujourd'hui. Le malaise Dieudonné, on passe d'un truc à l'autre. Le plaisir, la joie de la naissance et le malaise Dieudonné. Vous voyez quelques réactions, il y en a eu énormément sur le répondeur de la Bassus, si j'y suis, sur les pages sur le France Inter, sur là-bas.org, sur les pages Facebook. Ça tourne toujours finalement un peu en rond, on a un peu toujours les mêmes réactions, les pros Dieudonné, inconditionnels. Il se peut effectivement que Manuel Valls, qui restera dans l'histoire comme le plus grand publicitaire d'un comédien accusé d'antisémitisme, ait radicalisé les spectateurs ou les amateurs de Dieudonné et qu'il les ait radicalisés dans quelque chose qui risque peut-être de devenir, qui sait, un sort de mouvement. Il y a quand même beaucoup de monde derrière Dieudonné et Soral également. Deuxième meilleure vente de livres Amazon. Donc tout ça n'est pas rien et on continue aujourd'hui toujours avec ce souci d'essayer de comprendre qui sont les auditeurs qui sont des amateurs de Dieudonné et quel est le public de Dieudonné qui le suit et qui est ce public. C'est vrai que Manuel Valls a fait de ce polémisme, vous avez vu le mot polémisme qui est apparu, un martyr, un héros déguisé en Guevara qui parodie le chant des partisans. C'est deux choses, je vous avoue, qui me font pas marrer du tout. Je manque complètement d'humour sur ces détournements-là. Le public, eh ben, on l'a dit hier, on l'a entendu, on l'a constaté, ni idiot, ni facho, mais inquiet, mais en colère, mais fragile, et qui fait son marché idéologique un petit peu partout. Hein, voilà, on en prend un petit peu là, on en prend là, tiens, ça c'est pas mal, on va sur YouTube, on voit un petit sketch, on voit un petit machin, une petite intervention, bonbon, on se bricole comme ça, des idées, des pensées, pourquoi pas après tout, hein, mais ça suppose une quête, une attente de réponse, et puis surtout une attente d'horizon, ce qui s'est évanoui complètement, l'horizon s'est complètement évanoui, c'est vrai, et sauf qu'à tout ça, à toutes ces interrogations, ces colères, ces questions, Dieudonné et son mentor Soral ont une réponse, et une seule réponse, le complot sioniste. Ils expliquent tout de cette façon-là, le complot sioniste, et dans leur bouche, c'est bel et bien le complot juif. Alors, s'opposer à cette dérive, c'est expliquer, c'est rappeler l'histoire, c'est rappeler la responsabilité de ceux qui, en France, pratiquent le chantage à l'antisémitisme face à toute critique de la politique israélienne. C'est rappeler le détournement et l'exploitation de la mémoire de la Shoah. C'est lutter contre la concurrence mémorielle. Et c'est, entre autres, comprendre et écouter ce public. Ce que nous allons faire jusqu'à 16h ou presque dans la basse, si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Ce qui est sûr, c'est que c'est pas avec Dieudonné qu'on défendra la sécurité sociale. Et aujourd'hui, que M. Hollande nous a annoncé l'autre jour, c'est le dynamitage de la sécurité sociale, déjà entamé par les différentes lois et en particulier le plan Juppé. Je vous rappelle quand même que c'est une des mobilisations les plus importantes en France qui a eu lieu. Là, on nous annonce carrément la disparition d'une branche de la sécurité sociale, la branche famille, un des deux piliers de la sécurité sociale de 1945, conquête qui a été arrachée au patronat parce qu'il avait collaboré et qu'il avait peur de perdre encore plus. Tous les gouvernements successifs ont passé leur vie à détruire cette œuvre qui représente quelque chose de central pour tous les travailleurs. Moi, j'aurais préféré quand même une émission sur les attaques actuelles du gouvernement, de les décoder pour que tout le monde comprenne la portée, plutôt que d'une émission sur le public de Dieudonné. Franchement, j'en ai rien à foutre.
Bonjour Daniel. Samedi 25 janvier à 11h, je pars de Régnier, en Haute-Savoie, et je vais à Paris à pied pour rencontrer notre gouvernement, leur exprimer mon désarroi, leur parler de nous, de nos quotidiens. Parce que vraiment, ils sont à côté de la plaque. Et je serais heureux s'il y avait du monde avec moi. Alors j'ai un petit blog en construction. marchevertparis.blogspot.fr marchevertparis.blogspot.fr sur lequel j'ai écrit mon itinéraire et fait un appel aux personnes qui pourraient m'héberger. Je vous donne aussi mon adresse mail cheneau.denis@wanadoo.fr cheneau, cheneau.denis@wanadoo.fr. Allez, levons-nous et marchons.
Bonjour, nous sommes les 615 employés de l'entreprise de microélectronique Elfondé Rousset dans les Bouches-du-Rhône, licenciés le 26 décembre, tout sacrifié sur l'autel du profit à court terme, comme beaucoup d'autres, liquidés puis oubliés dans la masse. Nous avons été cédés il y a 3 ans par notre ancienne direction Atmel pour 1 euro symbolique à des escrocs allemands qui ont pillé la trésorerie et avaient en charge la liquidation. Ils sont maintenant en Italie pour reproduire certainement le même scénario. Notre liquidation va coûter 80 millions à la collectivité. Nous continuons à nous battre contre ce gâchis industriel et humain. Si vous voulez nous soutenir, une pétition est en ligne sur www.change.org. Vous recherchez Elfonderie, L-F-O-U-N-D-R-Y. Merci pour tes émissions, Daniel. Sylvie.
Ils sont en train, ces politicards, de créer de l'antisémitisme en France. Dieudonné, il ne fait pas d'antisémitisme. Ils ont mis un doigt, ils sont en train de rendre les gens racistes.
Excusez-moi. Ils créent de l'antisémitisme. Comment vous vous appelez ? Comment vous appelez ?
Nordine.
L'antisémitisme, c'est détester les juifs parce qu'ils sont juifs. C'est le racisme.
Ah, regardez, là, il y a une dame qui arrive avec un drapeau israélien.
Oui.
Parce que c'est en même temps un drapeau juif.
Enfin, madame, vous êtes tous antisémites, hein.
Je sais, j'espère que vous n'êtes pas tous
mais
antisémites.
Non, on est antisémites, madame.
Parce que...
On est antisionistes.
L'antisionisme, c'est une position politique. La frontière, pour moi, il n'y en a qu'une, c'est la frontière de l'action. Tu es antisioniste, bats-toi contre le sionisme, fais un travail politique, exprime-toi, explique, prends le temps d'apprendre aussi.
Salut, c'est là-bas si j'y suis, c'est Daniel Mermet avec Anaël Verzo, le malaise Dieudonné.
Flight number 2, arriving from New York.
Ouais, tout le monde se regroupe, hein, devant l'entrée du Zénith. Non, on est à combien de mètres là de l'entrée? J'arrive pas
à
voir.
On est à peu près à 20 mètres. 20-30 mètres.
20-30 mètres. Disons, les personnes, tout le monde attend que Dieudonné sorte, fasse une annonce.
Pourquoi il se réveille aujourd'hui? Ça fait des années qu'il fait ce qu'il fait là.
Vous êtes de quel coin? Vous êtes de Nantes?
Je suis de Nantes, je suis nantais.
Vous travaillez? Vous êtes étudiant?
Je travaille, je suis salarié dans un club de foot. Moi, je suis venu pour l'humoriste, voilà, parce qu'il me fait rire.
Dieudonné, t'as pas l'impression qu'il profite justement de toi? Parce que lui, il se présente aux élections après. C'est aussi un homme politique. Lui aussi, il fait comme tous les politiciens. Il profite aussi un peu de ses spectateurs pour après, pendant les élections, remporter des voix, ramener des gens autour de ses idées, anti-sionistes ou autres. Et est-ce que t'as pas l'impression justement que c'est lui qui se sert de toi pour un but politique?
J'ai pas du tout cette impression-là. Je sais pourquoi je suis là. Je suis là pour l'humoriste, je suis pas là pour le politicien. Moi, j'ai envie de poser une question. Ces gens-là, ils étaient où quand Michel Leb fait le singe en imitant les Africains? Ils étaient où? J'ai jamais entendu quelqu'un à la télé critiquer Michel Leb sur ses blagues, sur les Noirs. Moi, je ne ressemble pas à un singe. Est-ce que je ressemble à un singe? Non, mais
non,
voilà, c'est pour dire
non.
Ça. Dieudonné, avant de s'attaquer aux Juifs, il s'est attaqué aux Noirs, aux Arabes, dans ses sketchs. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu sur Internet.
Quand il le faisait, quand il s'attaquait aux Noirs et aux Arabes, il jouait un personnage raciste. Comme avec Elie Semoud. Là, il ne joue plus un personnage. Là, il prend donc, plus la peau de quelqu'un.
Donc, à partir du moment où il joue un personnage,
lui-même.
On peut dire tout ce qu'on veut, alors.
Bah, t'as l'air de dire que Dieudonné a le droit de dire tout ce qu'il veut.
J'ai pas dit qu'il a le droit de dire ce qu'il veut. C'est un artiste.
On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. On pouvait rester, hein.
Du temps de mes parents, on reconnaissait facilement les juifs. Ils avaient les lobes des oreilles pendants.
Pierre Desproges.
Les doigts et le nez crochu.
1986.
Et la bite à col roulé. Mais de nos jours, vous comprenez bien que ces gens-là, ils se font tous raccourcir le nom et raboter le pif par les as de la chirurgie esthétique. Alors on les reconnaît plus. Regardez Jean-Marie Le Pen-Hovichstein, on dirait un breton.
Nous allons prendre une question. 787-22-22, bonsoir. Allô ?
Bonsoir Patrick, bonsoir Coluche.
Oui, bonsoir monsieur.
Oui, Coluche, je vous admire beaucoup, ainsi que plein de vos collègues dans le métier, par exemple Patrick Sébastien, Thierry Leluron, enfin toute cette gamme de comédiens comiques.
Mmh.
Et la question que je veux vous poser est la suivante. Pourquoi vous tous, vous imitez les Noirs, les Jaunes et les Arabes, et vous n'avez jamais osé toucher aux Juifs, alors qu'il n'y a qu'un seul qui le fait, c'est un Juif, c'est Popek.
Vous savez, d'abord, il ne faut pas croire qu'on ne fait des plaisanteries que sur les Noirs et sur les Arabes, c'est pas vrai.
Coluche.
Il faut dire aussi qu'on a beaucoup esquinté les Belges.
1985.
Si vous vous rappelez un petit peu avec de la mémoire. Mais la raison pour laquelle ce sont que les Juifs qui font des plaisanteries sur eux, c'est parce que d'abord, c'est vrai qu'ils sont intouchables. C'est vrai qu'ils sont intouchables et d'autre part, c'est une population qui a de l'humour et donc qui peut se permettre de faire des plaisanteries sur elle-même, ce qui n'est pas notre cas, à nous les Français. Et on en est loin même.
Non, justement, c'est parce que je trouve le contexte très riche parce qu'il y a des Juifs séfarades et ashkenazes, il y a tellement de...
Ah oui, mais ça c'est très très riche, alors là je suis d'accord avec vous. Les Juifs sont très très riches en tout d'ailleurs, en humour, en tout, ça c'est vrai. Mais vous savez qu'il y a 4 preuves que Jésus-Christ était juif. Il y a 4 preuves. D'abord, il a vécu 33 ans avec sa mère. Il faut être juif. Il a cru qu'elle était vierge pendant 33 ans. Ça faut être juif. Elle a dit partout que son fils c'était le bon Dieu. Ça faut être juif. Et il a quand même monté une affaire qui est devenue multinationale. Donc,
Tirer la queue du tigre qui dort. Il y en a qui ne peuvent pas s'en empêcher. Les gamins, les vieux gamins, les très très vieux gamins qui peuvent pas s'en empêcher. Tirer la queue du tigre qui dort. Les deux qu'on vient d'entendre, c'était ça. Vous pouvez pas s'en empêcher de tirer la queue du tigre qui dort. Des fois ça donne des gaffes, des fois ça donne des conneries, des fois ça permet de montrer la connerie terrible de quelqu'un. C'est le risque, c'est le risque. Il y a le premier degré, il y a le deuxième degré. Il y a ceux qui font mine de ne pas comprendre quand on parle au deuxième degré. Il y a ceux qui ne comprennent pas, qui ne sont pas accessibles au deuxième degré. Ceux qui font semblant très souvent, on appelle ça le politiquement correct, et qui sont là en train déjà de souligner les phrases prononcées dans la base « J'y suis » pour voir si on ne pourrait pas poursuivre, faire un procès, menacer. C'est ainsi, c'est le risque de ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de tirer la queue du tigre qui dort. Alors, il y a deux sortes de tigres qui dorment. Il y a ceux qui sont en liberté et il y a ceux qui sont en cage. Et nombreux sont ceux qui tirent la queue du tigre qui dort à condition qu'ils soient en cage. Ils sont assez peu nombreux, finalement, ceux qui tirent la queue du tigre qui dort lorsque celui-ci est en pleine santé et en liberté, prêt à sauter. Pas nombreux. Dieudonné en faisait partie. En faisait partie. Il n'en fait plus partie. Il n'en fait plus partie. On retrouve aujourd'hui les auditeurs, on les a entendus, les spectateurs de Dieudonné, le public de Dieudonné. Vous avez raison, on n'arrivera pas à faire le portrait de tout ce public-là. Très hétéroclite, c'est vrai, mais quelques échos, quelques points de vue sur un sujet sans doute boursouflé, qui n'est peut-être qu'une fièvre, mais qui est peut-être une maladie. C'est jusqu'à 16h, ou presque, c'est la base du tissu.
Elle est malingre, elle est petite, elle boit de grands verres d'eau bénite, tout en feuilletant le glossaire des mots interdits par Dieu le Père. Elle coupe, elle mutile ou elle blesse, ici un cœur, là une fesse. Elle est le chirurgien des rois, l'Ambroise Paré sans foi ni loi. Sur le corps, elle porte une bure pour cacher ses trésors absents. Sur le cœur, elle porte une tonsure comme on porte un Saint-Sacrement. La censure, la censure. Faudrait censurer le striptease, la presse du cœur et les faillots. Faudrait trouver la terre promise ailleurs qu'aux conneries des radios. Faudrait qu'un de ces jours on muselle les battleurs et leurs bagouts. Faudrait qu'un de ces jours les bordels reviennent faire un petit tour chez nous. Faudrait enfin qu'on me réponde, qu'on me convainque, qu'on me rassure que je ne suis pas la seule au monde à vouloir qu'un jour on censure.
Jackie! 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 Jackie!
Ben, on est toujours devant le Zénith. D'un côté, il y a les CRS. De l'autre, des groupes de personnes qui font des quenelles de temps en temps. Là, je vois deux bonnets rouges. Et puis, les gens en débattent, discutent.
J'ai un petit truc à rajouter. Vous parlez de les médias en général de la du salut nazi inversé. Si vous réfléchissez bien, un sens d'un signe inversé, c'est contre justement. Donc la quenelle, si on va très loin dans votre délire, elle est contre le nazisme, elle est contre toutes sortes de racisme. C'est la preuve que vous pouvez détourner l'information comme bon vous semble, dans le sens que vous voulez. Et c'est ce que fait les médias aujourd'hui, BFM, TF1, ITL en tête, et les autres qui suivent, voilà, parce qu'il ne faut pas oublier d'où viennent les ordres. D'accord ? Quand on a un président ou un patron comme Dassault, qui est président de TF1 ou de France 2, je ne me rappelle plus.
Dassault, c'est Le Figaro.
Peu importe.
C'est, TF1, c'est Bouygues.
Tous, ce sont des marchands d'armes, et il ne faut pas oublier. Ils vont nous prôner la guerre, qu'il faut faire la guerre en Syrie au nom des droits de l'homme. Regardez le pays il est dans la merde, il en a marre, on n'a pas de travail, on n'a rien, on a des salaires de merde qui nous permettent juste de
travailler.
Non, je travaille pas, je suis dans la merde, c'est pareil. On s'en sort pas, et le problème, ils sont en France, et il faut les régler en France, que la France s'occupe d'abord de son cul, qu'elle balaye devant sa porte avant de balayer chez les autres.
Votre prénom ?
Peu importe mon prénom, je suis les 99%, je suis le peuple.
Tu sens pas le deux poids, deux mesures ?
Voilà.
Vous habitez là ?
Oui.
À Nantes ?
Oui.
Et qu'est-ce qui vous plaît chez Dieudonné ?
Ce qui nous plaît, c'est la provocation et qu'il ose dire les choses. Nous, on n'est pas anti-système, mais on combat le système actuel.
Contre quel système et pour
ce
quel système ?
Ce gouvernement actuel, si vous préférez. Et celui d'avant, ils nous font passer de gauche à droite, alors qu'ils dînent ensemble. C'est des amis, ils ont fait tous l'ENA. Ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais cherché à comment faire pour se nourrir, comment faire pour se loger. On veut un gouvernement qui soit comme nous, qui soit le peuple. C'est tout.
Et vous, vous votez ?
Honnêtement, j'ai voté. Et maintenant, je ne voterai pas, je voterai Biquette. Comme présentait Dieudonné, je ne crois pas aux gens qu'on me présente. À partir du moment où on me les montre à la télé, je sais qu'ils ne dérangent pas. C'est flagrant qu'on essaye de nous faire penser, en majorité par les masses médias, on essaye de nous faire penser telle ou telle chose qui va dans le sens du gouvernement, qui va dans le sens de ces puissants, de cette élite. Peu importe de quelle origine elle soit, c'est une élite, et une élite qui cherche à nous contrôler, et c'est ça le problème aujourd'hui.
Vous avez quel âge ?
J'ai 25 ans.
Mais est-ce que, pour vous, Dieudonné est antisémite ou pas ?
Non, du tout.
Quel sens ça a quand il fait monter Robert Faurisson, qui est un négationniste, revendiqué, militant, sur scène ?
C'est de la provocation. Si vous vous renseignez bien, Dieudonné n'est pas spécialement de l'avis de Faurisson. Ses fans ne sont pas spécialement de son avis, mais on aimerait pouvoir explorer l'histoire. L'histoire, elle doit se réécrire, elle doit être analysée parce que, voilà, comme le dit Dieudonné, qui écrit l'histoire, c'est le gagnant.
Ah, quelle histoire il faudrait
écrire ? L'histoire, elle est écrite par qui ? L'histoire qu'on m'a enseignée à l'éducation nationale ? Qui écrit l'histoire ? Moi, je le connais pas.
Alors, pour répondre à ce spectateur, deux choses. À lire La destruction des Juifs d'Europe de Raoul Hilberg. Et puis on mettra en ligne sur labat.org un texte d'Alain Badiou sur le négationnisme. Comme ça, vous aurez le temps de lire et de réfléchir sur ce sujet et sur Faurisson et sur le révisionnisme et le négationnisme. On touche sur des sujets, on aborde des sujets extrêmement graves, extrêmement importants, comme le disait Bedos, Guy Bedos. Il ne faut pas confondre Anne Frank et Ariel Sharon. On retrouve Michel Ciboni de l'Union juive française pour la paix.
Michel Ciboni, c'est là qu'il faut distinguer sionisme et sionisme. L'antisionisme de Dieudonné n'est pas l'antisionisme de l'UJFP.
Dieudonné est un mec qui a l'air mu par un profond ressentiment et qui a l'air de nager dans des confusions sordides. Comment les gens qui font la quenelle et qui adorent Dieudonné expliquent-ils ou s'arrangent-ils avec le fait qu'ils soient aussi proches du Front National ? Qui n'a cessé d'expliquer que la France ne voulait ni les Noirs ni les Arabes, qu'il fallait les virer, qu'il fallait pas leur donner les mêmes droits qu'aux autres, etc. Comment ils s'arrangent avec ça ?
Ils disent c'est de la provocation.
C'est de la provocation pour qui ? Il y a aussi toute une frange de jeunesse française en train de se fasciser grâce à la crise. la société n'offre pas de travail. Il y a une crise, on a déplacé les hiérarchies économiques sur les hiérarchies raciales. S'il y a une manipulation politique, elle consiste dans une société de plus en plus inégalitaire, économiquement et socialement, à déplacer la question de l'économique et du social sur la question raciale. C'est-à-dire, le problème n'est plus que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre. Le problème est que vous soyez noir ou que vous soyez rome ou que vous soyez arabe ou que vous soyez juif. Si on joue une hiérarchie raciale, dans la hiérarchie raciale, on a besoin des juifs. Il y a des gens que ça intéresse de mettre les juifs en avant dans cette bataille-là, s'il va y avoir un complot. En France, hein, jamais j'oublierai ce qu'a dit un jour Luc Ferry, associé à Sarkozy. Luc Ferry, ministre de l'Éducation nationale, et Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui avaient déclaré ensemble « Nous veillerons à ce qu'aucun enfant ne puisse être agressé dans une cour d'école en raison de sa religion, particulièrement les juifs. » Le jour où j'ai entendu cette phrase, je me suis dit « On est en train d'utiliser les juifs. » D'abord parce qu'on les désigne dans la cour d'école comme l'enfant à protéger en particulier par l'État. Et d'ailleurs, j'avais été interrogée par des élèves là-dessus. Mm-hmm. Et je leur avais dit, bah écoutez, qu'est-ce qui va se passer dans ma classe si j'arrive demain matin et que je vous dis, lui là, le petit qui a les cheveux rouges, faites attention, s'il y en a un qui le touche, vous allez tous être punis. Et je le mets à part et je le protège en particulier. Comment vous allez réagir? Et ils se sont marrés, on dit, attends, on va lui casser la gueule à la récré. J'ai dit, bah c'est un peu ce que vient de faire Luc Ferry. Même la manière délirante de Sarkozy, quand il a proposé de jumeler chaque enfant d'une école française avec un enfant mort dans les camps de concentration, c'était l'aboutissement d'un long processus que j'ai vu aussi.
Pour ce 23e dîner du CRIF, Nicolas Sarkozy s'est déplacé avec la quasi-totalité des membres du gouvernement.
France 2.
Il en a profité pour revenir sur ses propos controversés sur la religion.
14 février 2008.
À Rome et à Riyad.
Jamais je n'ai dit que la morale laïque était inférieure à la morale religieuse. Ma conviction, voyez-vous, c'est qu'elles sont complémentaires. Et que quand il est difficile de discerner le bien du mal, il est bon de s'inspirer de l'une comme de l'autre.
Et dans la lignée de la célébration de Guy Môquet dans les lycées, le chef de l'État a annoncé qu'à partir de la rentrée 2008, tous les enfants de CM2 se verront confier la mémoire d'un des enfants français victimes de la Shoah.
Rien n'est plus intime que le nom et le prénom d'une personne. Et rien ne touche autant un enfant que l'histoire d'un autre enfant de son âge, qui avait les mêmes jeux, les mêmes joies et les mêmes espérances que lui.
Alors quel est l'intérêt de surprotéger les Juifs et de les utiliser ?
On s'est servi d'eux comme béliers dans une bataille contre l'islam en France, qui était une bataille qui, au fond, qui était dérivée des États-Unis, sûrement, à cause de cette désignation de l'axe du bien et de l'axe du mal. Il ne faut pas oublier qu'au moment de cette émergence comme ça, de cette apparition forte du néoconservatisme, après la destruction des deux tours, etc., il y a eu une rencontre phénoménale, idéologique, entre l'idéologie sioniste et Sharon, et l'idéologie de Bush. Les Israéliens n'avaient jamais rien dit d'autre. Il n'y a pas de résistants palestiniens, il n'y a que des terroristes. C'est ce que disait Bush. La France n'a jamais cessé de soutenir Israël politiquement. Toutes les règles du droit international qui prévoyaient des sanctions sur les actions d'Israël ont été bloquées, notamment par la France. Dans l'Union européenne, à commencer par l'accord d'association d'Israël avec l'Union européenne, qui aurait dû être levé depuis très longtemps, puisqu'il ne respecte pas sa clause article 2 de respect des droits humains, bloqué. Sur Gaza, on est arrivé à des définitions, même de l'ONU, de crimes contre l'humanité, sur ce qui s'est passé à Gaza en 2009. Le rapport Goldstone, enterré.
Ce n'est pas la première fois que l'on parle de violations des droits de l'homme commises dans la bande de Gaza en janvier dernier.
France 3.
Mais cette fois, les accusations portent la signature des Nations Unies.
15 septembre 2009.
Et c'est le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui publie aujourd'hui un rapport accablant. Pour les enquêteurs, Israël a fait un usage disproportionné de la force et violé le droit humanitaire pendant son offensive contre la bande de Gaza. Le rapport accuse les Israéliens d'avoir tiré des obus au phosphore blanc sur des installations des Nations Unies chargées des réfugiés palestiniens. Le rapport cite aussi les frappes intentionnelles sur des hôpitaux, ainsi que de nombreuses attaques délibérées contre des civils ou des édifices civils. Mais les enquêteurs de l'ONU dénoncent également le Hamas et ses tirs de roquettes et de mortiers sur des zones habitées en Israël. Autant d'actions assimilables à des crimes de guerre et peut-être des crimes contre l'humanité, pour le juge Goldstone, qui reproche à Israël et au Hamas leur refus de coopérer avec l'ONU.
Je dirais qu'Israël a manqué de réelle volonté pour enquêter sur les accusations de violation des lois internationales. Et de l'autre côté, il y a eu une absence totale d'enquête des autorités de Gaza pour stopper les tirs illégaux de roquettes et de mortiers sur le sud d'Israël.
Alors, il faut préciser concernant le rapport Goldstone, que le juge Goldstone, Richard Goldstone, ce juge sud-africain, s'est par la suite rétracté sur son rapport. Il est revenu sur son rapport et donc le gouvernement israélien a exigé l'annulation du rapport Goldstone après que le juge Goldstone ait exprimé des regrets. Il faut préciser ce genre de choses, mais vous voyez qu'il faut être au courant, il faut se documenter, il faut s'informer, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre position, mais on commence par s'informer le mieux possible, le plus précisément possible, et réfléchir, discuter entre copains, et essayer d'avoir les meilleures sources d'informations, de réflexions et d'analyses. Le malaise Dieudonné, on continue.
Voilà, c'est samedi 11 janvier, il est 14h, et je me trouve près du Théâtre de la Main d'Or à Paris, dans le 12e arrondissement. Il y a des cars de CRS et beaucoup de monde rassemblé devant le Théâtre de la Main d'Or. Vous êtes parisien ?
Oui, je suis parisien, oui.
Banlieue parisienne ou Paris même ?
Banlieue parisienne, j'en ai 93 en fait. Je suis consultant.
Vous avez quel âge ?
29. 29 ans.
Et habituellement, vous votez ou pas ?
Oui, je vote.
Pour plutôt la gauche.
Je vote, oui. J'avais voté NPA, j'ai voté socialiste aussi. Je me suis toujours senti à gauche, aucunement antisémite, ni quoi que ce soit. Et je suis moitié européen, moitié africain, parce que Afrique du Nord, en fait.
Et, de quel pays ?
Algérien et espagnol. Pour vous dire, moi, du côté algérien, ils ont combattu les para-français dans ma famille. Il y a des Algériens qui ont été tués par l'armée française. En Espagne, j'ai de la famille qui a subi aussi le fascisme, qui a combattu le fascisme de Franco. Donc, entendre des gens nous donner des leçons sur qu'est-ce que l'antifascisme et se faire traiter d'antisémite juste parce qu'on dit qu'on a aimé un spectacle de Dieudonné, c'est blessant. Et surtout dans les grands médias où les politiques nous disent « Ah, si vous aimez ça, vous êtes antisémite ». C'est dur. Moi, quand je sors d'un spectacle de Dieudonné, je me dis pas, j'ai la haine contre les Juifs. Au contraire, moi, je suis contre la violence faite aux Juifs. Je soutiens les Juifs qui veulent vivre paisiblement dans notre pays, comme toutes les autres communautés. C'est tout, parce qu'on est très proches. En plus, moi qui suis d'une culture arabe, à moitié, les Arabes et les Juifs ont une culture très proche. En Algérie, il suffit de voir, quand j'étais en Algérie, j'ai vu, il restait encore quelques Juifs, et ils vivent en paix avec les Arabes, et c'est quelque chose de merveilleux. Et même la communauté arabe en France, la mosquée de Paris, a hébergé de nombreux Juifs durant la guerre aussi, et ça, on oublie de le dire. Faut arrêter de monter les uns contre les autres et d'accuser d'antisémitisme, c'est lourd quand même, c'est une insulte, c'est, l'honneur est sali à un point qu'on ne peut même plus le laver, puisqu'après, ça reste, voilà, ça reste, alors que c'est complètement faux. Après, je pense qu'on ne peut pas, comme disaient des proches, on ne peut pas rire de tout avec tout le monde, c'est-à-dire qu'après, ça dépend de la personne qui fait la blague. Il y en a, on sait très bien que c'est orienté, d'autres non. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Si Le Pen fait une blague sur les Noirs, on saurait très bien que ce n'est pas la même chose que si Jamel Debbouze le faisait. Bon, ça, après, c'est autre chose. Mais un juste milieu. Et le problème de Dieudonné, ce qu'on oublie, c'est qu'aussi, c'est la conséquence d'un acharnement qui a commencé avec un simple sketch sur un colon extrémiste israélien. Pas sur... J'ai entendu Jakubowicz chez Tadei qui disait oui, il a fait un sketch sur un rabbin israélien. Non, c'est pas un rabbin, c'est sur un colon extrémiste. Je veux dire, moi, je vois tous les jours des sketchs sur Ben Laden et sur les talibans et tout ça, sur les musulmans, sur les chrétiens, sur la fine équipe du 11. Enfin, même. Et le problème, c'est que là, on a fait un sketch sur un colon israélien et là, c'est l'acharnement. Et depuis tout le temps, on l'a radicalisé, on l'a rendu comme ça aussi. On l'a rendu comme ça.
Dieudonné antisémite. Dieudonné antisémite. en antisémite. Dieu donné antisémite, en antisémite. Dieu donné antisémite. On pourrait parler de démocratie, mais on parle pas de ça. On est devenu fou. On en oublie les vraies questions. Mais c'est quoi la vraie question ?
Michel Thibauny, je suis membre du Bureau national de l'Union juive française pour la paix, qui est une association qui milite essentiellement sur deux thèmes. Promouvoir les conditions d'une paix juste entre Israéliens et Palestiniens dans le cadre du conflit du Proche-Orient, et aussi lutter contre tous les racismes, évidemment aussi le racisme antisémite. Je viens de prendre ma retraite, mais j'ai été jusqu'à l'an dernier, très exactement, professeur de lycée professionnel en lettres-histoire.
Où est-ce que se situe la frontière entre antisionisme et antisémite ? Dieudonné joue là-dessus. Il dit « je suis antisioniste, je ne suis pas antisémite ». Et dans son public, beaucoup de personnes nous ont dit « je suis antisioniste, je ne suis pas antisémite ». Non, 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 il faut bien faire la différence. D'ailleurs, les Arabes sont sémites, etc., etc.
Il y a une frontière évidente. L'antisémitisme, c'est détester les juifs parce qu'ils sont juifs. C'est le racisme. Je déteste une origine ou une religion parce que par essence, je la refuse. L'antisionisme, c'est une position politique. La frontière, pour moi, il n'y en a qu'une, c'est la frontière de l'action. Tu es antisioniste, bats-toi contre le sionisme, fais un travail politique, exprime-toi, explique, prends le temps d'apprendre aussi.
Mais qu'est-ce que le sionisme ? Parce que c'est là qu'ils arrivent à l'antisémitisme, c'est quand ils commencent à dire « le sionisme ». C'est ce qui dirige le monde, cherche à contrôler le monde. Pour beaucoup,
non, ça, c'est même pas du sionisme, c'est une théorie du complot raciste, qui est vieille, beaucoup plus vieille que ceux qui le disent, et qui ignore sûrement les origines de ce type de racisme, qui sont plutôt européennes d'ailleurs.
Protocole des sages de Sion.
Absolument. Le sionisme, c'est une idéologie qui est née au 19e siècle, en Europe centrale, dans un contexte d'antisémitisme assez virulent, qui était le moment de l'émergence et de l'application de l'idéologie des États-nations, qui se fait sur la base un peuple, une langue, une culture, une nation, des frontières, une terre. Et avec un deuxième contexte, qui est exactement le même au XIXe siècle, c'est le contexte de la constitution des grands empires coloniaux. Il est donc normal au XIXe siècle, un, de considérer qu'un peuple qui est persécuté a droit à sa terre et son État, parce que c'est la théorie de l'État-nation de l'époque. Et il est donc normal aussi de considérer que prendre une colonie quelque part et en faire son État, c'est bien. Cela dit, ça ne marche pas tout de suite. Mais ce mouvement qui est très minoritaire, surtout chez les juifs d'ailleurs, hein, à cette époque, il y a peu de juifs qui sont sionistes. Ce qui va favoriser gravement et grandement la concrétisation du projet sioniste et lui faire passer à la vitesse supérieure, c'est la Deuxième Guerre mondiale. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Et la destruction du judaïsme européen, qui fait qu'au lendemain de la guerre, les États européens, pas franchement ravis de recueillir les survivants des camps, les États-Unis et l'Union soviétique vont voter la partition de la Palestine et la création d'un État juif. C'est ça le sionisme. Alors curieusement, le sionisme, qui a été un mouvement très anti-religieux, s'est aussi servi de la Bible pour valider son assise historique en Palestine. Là où les excuses s'arrêtent pour moi, en tout cas, c'est au moment où, pour justifier ce droit-là, entre guillemets aussi, droit, je ne sais pas si c'est un droit, on va écraser un autre peuple. Que ce sionisme-là serve un certain impérialisme mondial, parce qu'il est considéré comme un bastion occidental en plein Moyen-Orient et un allié, ça ne lui donne pas une force extraordinaire. Que les Israéliens n'aient peur de rien, ça vient d'où ? Pas parce qu'ils sont plus malins ou plus forts que les autres. Ça vient du fait qu'ils ont gagné une impunité dans les structures du droit international qui ne sont plus respectées. À la seconde où on aurait menacé les Israéliens d'une sanction, la donne aurait changé. Il n'y a jamais eu de menace de sanction depuis 2000. Jamais. L'accord d'association avait été levé précédemment, pendant la première intifada. Ça a donné immédiatement lieu à des négociations.
Les éclairages de Michel Ciboni pour inciter, pour vous inciter à apprendre, à découvrir et de notre côté, faire notre boulot aussi, c'est-à-dire un peu de pédagogie dans ce mouvement, dans cette effervescence qui, espérons-le, deviendra, peut devenir fertile.
On est toujours devant le théâtre de la Main d'Or, passage de la Main d'Or, mais avec un petit groupe de personnes. Il y a toujours beaucoup de monde là, les CRS en face.
J'ai la trentaine, je vis à Paris, je travaille.
Vous aimez ces sketchs ?
Dieudonné pour moi est le meilleur. Mais tous ne me font pas rire en fait. Par contre, il y a certains sketchs que je trouve absolument géniaux. Enfin, moi j'ai des amis qui sont juifs et qui m'ont amené à Dieudonné. Et un copain m'a dit il y a 8 mois de ça, mais attends, mais regarde, il est quand même vraiment bien en fait. Et quand on dit qu'il est antisémite, franchement, Israël se prend une petite quenelle, comme il disait à l'époque, de temps en temps, ça leur fait pas de mal, vu la politique qu'ils mènent. Il y a beaucoup de gens en fait, en ce moment, on voit un regain de personnalité qui rentre sur la scène publique et qui emmerde l'État. C'est de l'ironie, c'est du cynisme, c'est de la provocation.
Moi, ce que je remarque, il y a quand même des points communs entre vous tous, en gros, c'est que vous êtes tous dans un rejet des institutions politiques. En même temps, il y a beaucoup de débats. Mais ça va se concrétiser par quoi ? C'est quoi la suite ? C'est ça, le...
Voilà, on ne sait pas. On voit les gens qui défient les gouvernements, Snowden, dans l'institution financière aussi. Beaucoup de gens qui, faisant partie du système, décident de se rebeller un peu contre. Dieudonné fait ça avec l'humour. Alors, il y a ce côté très bordelais avec la Shoah, l'antisémitisme. Ça, c'est, à mon avis, le gros défaut. Je comprends que ça heurte beaucoup de sensibilités. Voilà, moi, c'est pas trop mon truc pour ça, en fait. Mais ça soulève un débat intéressant sur la liberté d'expression et le fait qu'on est dans un système avec lequel le peuple est plus d'accord, en fait. Et on le voit aujourd'hui, le PS a menti sur toute la ligne, sur tout ce qu'ils ont proposé au départ. Au final, il n'y a rien. Ils poursuivent une politique de droite. Il y a eu l'affaire Cahuzac qui a complètement discrédité le gouvernement. Là, maintenant, il y a Dassault. Enfin bon, il y a des enjeux qui dépassent le peuple et qui commencent à agacer. Et ça, je ne sais pas comment ça va finir, mais je pense que Dieudonné participe à ce mouvement en disant « il y en a marre ».
Dieu merci, il n'y a pas que des gens qui font la quenelle comme seul système d'élaboration politique dans ce pays. Hein. Il y en a plein aussi qu'on connaît, et laissez-moi vous dire que ça change la donne. Les jeunes gens, et qui sortent des cités, et qui sortent de situations familiales difficiles ou sociales difficiles, et qui ont dû ramer dans la vie, et qui sont issus de l'immigration, comme on dit, et qui sont arabes, et qui sont noirs, etc., qui arrivent au militantisme, on en connaît plein. Et ils ont un discours politique, articulé, ils se sont formés, et ils se bagarrent, eux, pour de vrai, contre le régime israélien, qui est un régime aujourd'hui proche de l'apartheid. Et ils ont des outils, mais des outils politiques. Et c'est tout ce que je leur souhaite, de ne pas se contenter d'une quenelle pour exister.
Merci à toutes et à tous. C'était le malaise Dieudonné, le second volet du reportage d'Anaël Verzo. Merci à Jean-Baptiste Ravigno-Méziane, à Michel Ciboni, à Robert Kissous, à Jean-Paul Gaultier et à Gabriel. À lire La galaxie Dieudonné de Jean-Paul Gaultier, Michel Briganti et André Deschaux chez Sileps. Et puis le bouquin d'Anne-Sophie Mercier, La vérité sur Dieudonné. Et à ne pas louper, vous trouvez facilement sur YouTube un film formidable, Drumont, histoire d'un antisémitisme français, un film d'Emmanuel Bourdieu qui est en écho avec ce dont nous venons de parler aujourd'hui. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission également sur le site là-bas.org, là-bas.org, et faire un tour sur la page Facebook de là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Alice Berger et Pierre-Yves de Rolin. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérère, préparée avec Jonathan Duong. Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h avec Pablo. Pour là-bas si j'y suis. Pour l'instant, je vous laisse avec Hervé Pochon, avec son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Qu'est-ce que vous faites, monsieur ?
Moi, je fais du jardin ici. Je m'occupe de plusieurs pôles, mais je fais principalement du jardin. J'habite ici aussi. Je suis résident. C'est ma vie, en grande partie. Et du coup, avec ma copine, on s'occupe du jardin, de la trésorerie de l'association. Donc, le jardin, c'est un parc de 3000 m2, en fait, parce qu'on a donc 2000 m2 d'habitation et d'ateliers où il y a des artistes qui créent, etc. Mais on a aussi 3000 m2 autour de parcs, donc on savait pas trop quoi en faire. Nous, on vient d'autres ateliers d'artistes, donc on est toujours dans cet esprit-là. Donc, pour nous, c'était nouveau d'avoir autant de terrain. Donc, on s'est dit qu'il fallait l'utiliser. Moi, à l'époque, je travaillais dans un magasin bio. Donc, on a fait, les jardins. Et puis, tant qu'à
jardin potager ?
Jardin potager, jardin partagé, jardin fleuri. On est parti sur un projet de plusieurs mois avec la mise en place de différents espaces à travers le parc. Donc avec un espace vraiment pour les riverains, directement autour de chez nous. Un espace pour nous, pour pouvoir manger un peu moins cher et mieux de préférence. Et puis vraiment des espaces fleuris où là on va tester, on va essayer, on va inviter les gens aussi à participer avec nous.
Bonjour à tous et bienvenue au pavillon des artistes à Saint-Denis. Ou plutôt dans le jardin, en compagnie de
Mathieu.
On rentre dans le pavillon des artistes.
Bonjour, moi je suis cofondateur du site corecyclage.com et je suis partenaire du pavillon des artistes.
Corecyclage.com, c'est-à-dire ?
Corecyclage.com, c'est un portail de dons et de récup d'objets. Tout est gratuit, c'est à destination des particuliers, des associations et des entreprises. N'importe qui peut donner une seconde vie à ces objets dont il n'a plus l'utilité et tout le monde peut récupérer des objets gratuitement.
Et vous gagnez votre vie comment ?
En mettant en place cette solution sur des communautés d'agglomération, des collectivités et des entreprises pour les accompagner sur la réduction des déchets de manière intelligente.
Et votre prénom ?
Renaud.
Et alors, qu'est-ce qui vous a amené au pavillon des artistes ?
Tout simplement parce que je suis les artistes du pavillon des artistes, parce que je trouve ce qu'ils font est vraiment génial, notamment là à Saint-Denis, où, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, il y a une gratiféria aux zones de gratuité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, notamment les habitants du quartier, peuvent venir récupérer gratuitement tout un tas d'objets. Vous avez du linge de maison, vous avez des vêtements, vous avez des télés, l'électroménager, vous avez des livres, vous avez des vêtements, des chaussures, vous avez tout. Et c'est ça que j'aime bien dans le pavillon des artistes, c'est que c'est vraiment solidaire. C'est à destination du public qui habite autour et notamment à la ville de Saint-Denis, avec en plus de l'artistique derrière et vraiment une volonté de faire du zéro déchet et en l'occurrence de faire que tout ce qui n'est plus utilisé aujourd'hui soit réutilisé, détourné, avec de l'upcycling, avec du don et ouvert à tous.
Upcycling, ça veut dire quoi ?
Upcycling, c'est donner une nouvelle vie à un objet de manière différente de son utilité d'origine.
Et alors, par exemple, Mathieu, vous venez de récupérer une poêle.
Une poêle, oui, ça sert toujours. Et on était en manque de poêle de notre côté. Donc, je la vois. Et c'est pas... Nous, ça fait une semaine que c'est là. Et on dépose nos objets, on en récupère. Et c'est génial. J'adore le principe. Plein de petits trucs qui manquent, que les autres n'ont plus besoin. Et on ne pense pas forcément les acheter. Quand on doit les acheter, on n'a pas forcément envie. Et puis, là, c'est là.
Et pas de circulation d'argent.
Non, non, c'est plus simple. En plus, c'est fait vraiment dans un principe de gratuité, quoi. On n'est même pas, c'est pas rangé par nom de personne qui donne. C'est rangé, tout est mis ensemble. Donc, ça appartient plus à personne. C'est vraiment, sers-toi sans attendre qu'on vienne nous dire c'est bien d'avoir posé.
Si des objets restent à la fin, vous allez en faire quoi ? Est-ce qu'il y a des moments où vous mettez à la poubelle ou jamais ?
Jamais. Il y a toujours d'autres cercles. Enfin, nous, on est en partenariat avec d'autres ressourceries, donc on pourra les redistribuer. Ils ont un gros réseau aussi qu'au recyclon, donc il y a toujours. Et après, il y a des artistes, après, comme on dit, qui iront chercher les derniers trucs et les mettront sous blister et en feront des séries. Et normalement, on devrait tout garder, je pense.
Bonjour. Votre prénom ?
Gaëtan.
Gaëtan, vous habitez dans ce pavillon des artistes ?
Non, du tout. C'est un lieu de travail.
Vous gagnez votre vie comment ?
Moi, je gagne ma vie notamment en tant que valoriste. Valoriste, c'est un nouveau métier qui existe dans le réseau des ressourceries. C'est une ressourcerie, c'est un lieu qui, un petit peu de la même façon qu'Emmaüs, récupère des objets, les répare et les détourne de temps en temps pour les revendre à prix solidaire.
Elle est où votre ressourcerie ?
Alors c'est la ressourcerie de la Petite Roquette qui est au 126 du Chemin Vert.
Qu'est-ce qui vous a amené à participer à un collectif d'artistes comme ça ?
Moi-même j'ai déjà fait les Beaux-Arts et tout simplement en cherchant des solutions à mes propres problèmes, j'ai trouvé des collectifs qui avaient besoin de répondre à leurs problèmes aussi.
Mais vous vous considérez comme un artiste ou comme un technicien ?
Pour moi, le mot artiste, il est beaucoup trop connoté. Il a beaucoup trop de ramifications et on est avant tout des, quelqu'un qui est dans l'action et qui crée, qui voit ce qui est possible. Et ça m'intéresse pas en fait le mot artiste.
Je peux avoir votre âge ?
J'ai 28 ans.
Quand on rentre dans l'atelier, on a l'impression d'être chez un réparateur de télévision ou d'ordinateur. Il y a des ordinateurs partout, des écrans partout.
On aide des créateurs à mettre des dispositifs en place. Par exemple, quelqu'un, un artiste qui aurait besoin d'un mécanisme ou d'un système d'éclairage, de ce genre de choses, on peut l'aider à le mettre en place. En tout cas, on peut lui donner les clés pour qu'il le réalise lui-même.
Merci pour votre accueil et bonne continuation.
Ben, un temps de pochon, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure.
En 2014, on a les moyens de vous faire chanter. France Inter réinvente le radio crochet.
On y va ?
5000 auteurs, compositeurs, interprètes se sont portés candidats.
54 ont été auditionnés au Théâtre des Trois Baudets.
24 ont été retenus.
Vivez la suite de la compétition sur l'antenne de France Inter, tous les samedis. À 21h avec Vali et Didier Varro.
Qui allez-vous faire chanter ?
On a les moyens de vous faire chanter. Le Radio Crochet de France Inter.
Tous les samedis à 21h.
En partenariat avec la SACEM et la FNAC. Toutes les infos sur franceinter.fr. France Inter, une radio du groupe Radio France.
Oi, ore wa kaeru ze.
Boku mo kaeru yo.
France Inter présente Le vent se lève, le nouveau film du maître de l'animation Hayao Miyazaki, au cinéma le 22 janvier.
Kurachimozo. Hey.
Écartelé entre son désenchantement et sa foi en l'humanité, le réalisateur du Voyage de Chihiro nous entraîne dans une aventure humaine pleine de tendresse, de poésie et de rêve. Retrouvez Le vent se lève de Hayao Miyazaki dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour, le FMI voit du mieux dans l'économie mondiale. Il a revu aujourd'hui à la hausse ses prévisions de croissance pour cette année, une première depuis 2 ans. La croissance mondiale devrait être donc de 3,7%, soit 0,1 point de plus que prévu cet automne. En ce qui concerne la France, pas de changement pour le Fonds monétaire international, 0,9% de croissance prévue pour cette année et 1,5% l'an prochain. Des projections conformes à celles du gouvernement français pour cette année, mais légèrement plus pessimistes pour l'an prochain. L'Élysée apporte des précisions au pacte de responsabilité reformulé par François Hollande ce matin lors des vœux aux partenaires sociaux. Les contreparties aux allègements de charges des entreprises en termes d'emploi devront être décidées par branche et non générale. On ne peut pas demander non plus à une grande entreprise d'avoir les mêmes engagements qu'une PME, a déclaré le chef de l'État. Par ailleurs, l'Élysée envisage aujourd'hui une baisse des prélèvements obligatoires l'an prochain sur les entreprises. Elle pourrait s'accompagner, cette baisse, d'une baisse d'impôts pour les ménages en 2015. Si on fait un geste pour les entreprises, on en fera vraisemblablement un petit pour les ménages, dit l'Élysée. Mais on ne sait pas si ce geste en question tient compte de la baisse des cotisations patronales familiales de 30 milliards d'euros d'ici 2017 évoquée dans le pacte de responsabilité. Et quant au geste pour les ménages, s'il concerne les impôts payés en 2015, eh bien cela portera sur les revenus perçus en 2014. Retenez bien ces dates si vous devez prendre l'avion la semaine prochaine. Le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien, premier syndicat chez les aiguilleurs du ciel, les appelle à faire grève du lundi 27 janvier au vendredi 31 janvier. Le tout pour protester contre le projet européen de réduction des coûts du trafic aérien qui doit être examiné à Bruxelles. Le SNCTA s'attend à un mouvement très suivi, ce qui signifie des perturbations pour le trafic des avions. En plus des mesures de service minimum, la Direction générale de l'aviation civile, la DGAC, demande donc à l'ensemble des compagnies aériennes de réduire le nombre de leurs vols pour limiter les retards ou les annulations. Autre appel à manifester, celui aujourd'hui d'un mystérieux collectif appelé Jour de colère. Il appelle à descendre dans la rue dimanche à Paris pour coaguler, dit-il, toutes les colères face à l'action de François Hollande. Dans son manifeste, il est écrit que Jour de colère est l'expression d'une prise de conscience face à une action gouvernementale délétère qui nous mène droit vers l'abîme. Et cet appel est surtout relayé par les réseaux sociaux et il séduit des mouvements divers comme des comités de bonnets rouges, des associations de droite, le Printemps français qui était contre le mariage homo, les catholiques intégristes de Civitas ainsi que l'humoriste controversé Dieudonné. Et justement, à propos de Dieudonné, on apprend aujourd'hui qu'une nouvelle enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Elle concerne les appels aux dons lancés par lui-même pour payer ses amendes pénales. Le marin tombé à l'eau au large du Havre hier soir n'a toujours pas été retrouvé. Ses chances de survie sont maintenant très limitées, selon la préfecture maritime de la Manche. L'homme était un membre d'équipage d'un conteneur battant un pavillon libérien et est donc tombé à la mer hier soir. Vous écoutez France Inter, il est 11h03.
Tous les samedis à partir de 20h, le grand rendez-vous live de France Inter, présenté par Vali.
Cette semaine dans Live Me Do au Studio 105, en exclusivité pour nous, l'indomptable quintette Fauve.
Ce soir, je veux juste hurler, j'ai besoin d'ouvrir les vannes, tu comprends, de tout lâcher comme un puceau qui ment.
L'Odyssée Cosmique Pop de Florent Marchais.
Où étais-tu quand je portais vaincu?
Et la chanson française aux accents british de Mélanie Pain.
À fond, je vais, je fonce droit, tout droit devant.
Live Me Do.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous demain, à partir de 18h30, devant la porte B de la Maison de Radio France. Ou réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter.
Vous l'aurez rectifié vous-même, il est 16h04 sur France Inter. Bonsoir Frédéric Lodéon.
Et bonjour Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. Vous l'avez entendu, probablement, le grand Claudio Abbado nous a quittés, on l'a appris hier, et donc cette émission va lui être dédiée. Et nous en sommes à la fois heureux et touchés, et évidemment très tristes, heureux d'entendre sa musique de nouveau. C'est pas la première fois, évidemment, qu'on diffuse des enregistrements d'Abbado, mais là, il nous contemple d'un ailleurs que nous ne connaissons peut-être pas. Il est décédé donc lundi à Bologne, à l'âge de 80 ans, et il a signé un parcours de chef d'orchestre très impressionnant, de la Scala de Milan à l'Orchestre Philharmonique de Berlin, en passant par l'Opéra de Vienne, Italie à Chicago, enfin dans le monde entier, vous dis-je vraiment. Un musicien très humain et démocrate, a-t-on souvent dit, à juste titre d'ailleurs. En décembre dernier, il avait renoncé à son salaire de sénateur à vie, c'était un honneur qu'on lui avait fait, c'est le président italien qui lui avait offert ce poste, donc il a donné son salaire pour le consacrer au financement de bourses d'études pour de jeunes musiciens. Il disait « la musique aide à mieux vivre ensemble ». Il était très pudique, très réservé, jamais un mot plus haut que l'autre, et néanmoins son énergie pouvait se manifester, comme par exemple dans le final Allegro con brio de la 7e symphonie de Ludwig van Beethoven.